Wilkie Collins, La morte vivante. Prologue. La chaumière sur la frontière. La scène se passe en France dans l'automne de l'année 1870, l'année de la guerre entre la France et l'Allemagne. Les personnages sont le capitaine Arnaud du régiment de ligne, le docteur Surville attaché aux ambulances françaises, le chirurgien-major Wetzel de l'armée allemande, Horace Holmcroft, officier anglais, correspondant militaire d'un journal anglais, Mercy Merrick, infirmière des ambulances françaises, Grace Roseberry, jeune anglaise retournant en Angleterre. La morte vivante. Chapitre 1er. Les deux femmes. Une horrible nuit. Il pleut à torrents. Vers la fin de l'après-midi, deux détachements français et prussiens se sont heurtés par hasard près du village de Lagrange, sur la frontière française. Dans ce rapide combat, les Français ont eu l'avantage et quelques centaines d'Allemands ont été rejetés chez eux. Une chose à faire, mais comme elle succédait presque immédiatement à celle de Wissembourg, elle s'est perdue dans le bruit de cette funeste journée. À peine les journaux en ont-ils dit quelques mots. La nuit s'avance. Le capitaine Arnaud, qui commande la compagnie française, est assis dans une des chaumières du village. C'est le logis du meunier. Le capitaine lit, à la lumière d'une mauvaise chandelle, quelques dépêches prises à l'ennemi. Il a laissé s'éteindre la flambée allumée dans l'âtre. Quelques tisons brûlent encore et éclairent faiblement les alentours du foyer. Le sol est jonché des sacs vides du meunier. Le lit, une couchette grossière, s'élève dans un coin de la chambre dont les murailles sont couvertes d'images d'épinal représentant des sujets religieux ou militaires, un étrange et naïf musée de campagne. La porte qui fait communiquer cette pièce à la cuisine est arrachée. On s'en est servi en guise de brancard pour porter les blessés après le combat. Ils sont là, couchés sur de la paille, le mieux possible, dans cette cuisine, soignés par un chirurgien de leur nation et une infirmière anglaise attachée à l'ambulance. La porte a été remplacée par un morceau de toile grossière qui forme portière. Une autre porte est demeurée intacte, elle conduit de la chambre dans la cour, elle est close. Soigneusement fermée aussi, l'unique fenêtre et les volets en sont fixés par une solide barre de bois. Au dehors, le capitaine a placé lui-même les sentinelles. Il n'a négligé aucune des précautions qui peuvent assurer à ses hommes une nuit de repos. Il continue attentivement la lecture des dépêches tombées entre ses mains et il prend des notes sur ce qu'il lit. La portière de toile se soulève. Le docteur Surville entre et s'avance près de la petite table ronde devant laquelle l'officier est assis. « Qu'y a-t-il ? » demande brusquement celui-ci. « Simple question, dit le docteur. Avons-nous quelque chance d'être tranquilles toute la nuit ? » ?»« Qu'avez-vous besoin de le savoir ? » reprit le capitaine avec un mouvement de défiance. Les blessés le demandent. Ces pauvres gens sont inquiets pour ces quelques heures. Ceux d'entre eux que la souffrance laisserait dormir n'osent pas céder au sommeil. Que leur répondre ? Le capitaine leva les épaules. « Vous devez certainement savoir quelque chose, » reprit le chirurgien. « Je sais que nous sommes maîtres du village pour le moment, je n'en sais pas plus long. Voici les papiers dérobés à l'ennemi. » En même temps, il les froissait avec impatience entre ses mains. « Je n'y ai trouvé, » reprit-il, « aucun renseignement qui puisse vraiment m'éclairer. Tout ce que je sais, c'est que le gros de l'armée allemande est plus près du point que nous occupons que le gros de l'armée française. » Tirez de là les conclusions que vous voudrez. Je n'ai rien de plus à vous dire. » Ces derniers mots n'avaient rien de bien encourageant. Le capitaine Arnaud se leva, ramena sur sa tête le capuchon de son caban, alluma un cigare à la chandelle et se prépara à sortir. « Où allez-vous, capitaine ? » demanda le docteur. « Faire ma ronde aux avant-postes. » « Vous n'avez donc pas besoin de cette chambre ? » « Pas avant quelques heures. » « Auriez-vous le désir de transporter ici un de vos blessés ?»« Je pensais à la dame anglaise, » reprit le docteur. « La cuisine n'est pas pour elle un lieu bien convenable. Elle serait mieux ici et l'infirmière, qui est aussi anglaise, pourrait lui tenir compagnie. » Le capitaine Arnaud sourit d'un air assez peu obligeant. « Eh, dit-il, Deux jolies personnes. Le docteur Surville est donc toujours l'ami des dames. Faites venir ici vos deux belles Anglaises si elles ont le courage ou l'imprudence de se confier à vous. » Seulement, avant d'avoir atteint l'extrémité de la chambre, il se retourna. « Faites attention, dit-il, que vous avez affaire à des femmes et que toutes les femmes sont curieuses. Que voulez-vous dire ?» Le capitaine indiqua du doigt les volets fermés de la fenêtre. « En avez-vous jamais connu une seule, reprit-il, qui, si le désir lui vient d'ouvrir une fenêtre, soit capable de résister à ce désir-là ? Vous me direz qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fait un temps du diable. Cela n'y fait rien. Vos deux protégés n'en peuvent pas moins avoir envie de décrocher les volets. C'est ce que je ne veux pas. Je ne me soucie point que cette lumière révèle notre position aux espions prussiens. Heureusement, la pluie redouble. C'est un déluge. Tout est donc pour le mieux, cela nous sauve. » Sur cette remarque consolante, il ouvrit et referma rapidement la porte qui donnait sur la cour et s'éloigna décidément. Le docteur souleva de nouveau la portière rustique. « Mademoiselle Méric, dit-il, croyez-vous pouvoir prendre quelques instants de repos ?»« Pourquoi non ? » répondit une douce voix dans la cuisine. Il y avait une mélancolie frappante dans l'accent que l'étrangère avait mis à prononcer ces deux mots. « Passez donc dans cette chambre. Vous pouvez y amener avec vous cette dame anglaise. Le capitaine veillera au dehors pendant une grande partie de la nuit. » Une ou deux minutes s'écoulèrent. Les deux femmes parurent. L'infirmière entra la première. C'était une personne grande et mince, infiniment gracieuse dans son uniforme de mérinos noir, avec le col, les manches et le tablier blanc. Elle portait au bras gauche un brassard où la croix rouge de la Convention de Genève avait été brodée. Sa pâleur et sa tristesse étaient touchantes. L'expression de son visage, l'abandon de ses attitudes, tout indiquait en elle un long état de souffrance morale. Il y avait une singulière grandeur native dans la façon dont elle portait la tête. Ses grands yeux noirs et ses traits réguliers devaient la rendre toujours belle et charmante sous quelque costume qu'elle se fît voir. Sa compagne était plus petite et aussi plus brune. Sa physionomie avait de certains attraits piquants, de nature à faire comprendre l'insistance polie du docteur à la servir. En quoi ce docteur avait agi comme aurait fait tout autre homme? Le suffrage universel du sexe fort aurait proclamé que c'était là une jolie femme. Elle portait un long vêtement de laine grise qui la couvrait jusqu'aux pieds. Il fallait toute la souplesse naturelle d'une taille exquise pour donner de la tournure à un vêtement si vulgaire et si lourd. Néanmoins, la longueur de sa démarche et l'altération de sa voix quand elle remercia le médecin des bons soins qu'il prenait d'elle donnait à penser qu'elle était exténuée de fatigue. Ses regards cherchèrent vainement à s'orienter dans la demi-obscurité de cette chambre. Elle saisit vivement le bras de l'infirmière de l'air d'une femme qui a récemment éprouvé quelques violentes frayeurs et dont le système nerveux en est encore ébranlé. « Une seule recommandation, mesdames, dit le docteur, ayez soin de ne pas toucher à ce volet, car il ne faut pas qu'aucune lumière filtre dehors. Du reste, prenez la peine de vous installer ici de votre mieux. Rassurez vos craintes si vous en avez encore, et souvenez-vous qu'il y a ici un Français qui vous est tout dévoué. » Il appuya sur ces derniers mots, tout en portant galamment à ses lèvres la main de la jeune dame brune. Au même instant apparut un fâcheux. C'était un des soldats qui veillait dans l'ambulance et qui venait annoncer qu'un des blessés, ayant dérangé son bandage, perdait beaucoup de sang et paraissait évanoui. Le docteur se soumit de la plus mauvaise grâce du monde aux obligations de son métier et aux lois de l'humanité. Il sortit en maugréant. Les deux femmes étaient demeurées seules. « Voulez-vous vous asseoir, madame ? » demanda l'infirmière. « Ne m'appelez pas madame, je vous prie, » répliqua la jeune femme avec beaucoup de cordialité. « Je me nomme Grace Roseberry. Vous plairait-il de me dire votre nom ?» L'infirmière hésitait. « Il n'est pas aussi joli que le vôtre, » balbutia-t-elle. « Appelez-moi Merci Méric. » Sa voix tremblait. S'était-elle donc donné un nom qui n'était pas le sien ? Y avait-il quelque bruit fâcheux attaché au vrai nom qu'elle n'osait prendre ? Mademoiselle Rosemérée ne songea guère à faire d'observation à ce sujet. « Comment vous remercier, s'écria-t-elle, de toute votre bonté envers une étrangère ?»« Je n'ai fait que mon devoir, répliqua Mercy Merrick assez froidement. Ne parlons point de si peu de choses. » « Il faut en parler au contraire. Dans quelle situation m'avez-vous trouvé après le combat de ce soir? Ma voiture brisée, mes chevaux volés, moi-même perdu dans un pays que je ne connais point, dépouillé de mes bagages et de mon argent, et de plus, trempé jusqu'aux os par cette affreuse pluie. C'est à vous que je dois d'avoir trouvé un abri dans le campement français. Je porte vos vêtements. Sans vous, je serais morte de froid et de peur. » Merci d'abord ne répondit pas. Seulement, elle avança une chaise pour la jeune dame, près de la table, et s'assit elle-même à quelque distance sur un vieux coffre, dans un coin de la cheminée. « Puis-je vous faire une question ? » demanda-t-elle tout à coup. « Sans question, répondit Grace, si vous voulez. » En même temps, elle regardait le feu expirant et la triste physionomie de sa compagne, assise dans le coin le plus obscur de la pièce. « Cette misérable chandelle éclaire à peine, » dit-elle avec impatience. « Elle va s'éteindre tout à l'heure. Nous pourrions-nous donc rendre ce réduit plus gai ? Sortez de votre coin, je vous en prie, et faites rapporter du bois et d'autres chandelles. » Merci ne bougea pas et secoua la tête. « Les chandelles et le bois sont choses rares ici, » répliqua-t-elle. « Il faut que nous prenions patience, dussions-nous même rester dans l'obscurité. » « Dites-moi, continua-t-elle, en élevant un peu le ton de sa voix calme, comment avez-vous osé essayer de franchir la frontière en temps de guerre ?» Grace répondit, mais d'une voix sourde. Sa gaieté passagère l'avait abandonnée tout à coup. « J'avais des motifs pressants, dit-elle, pour retourner en Angleterre. Seule, vous n'avez donc personne pour vous protéger ?» La tête de Grace s'inclina sur sa poitrine. « J'ai laissé mon unique protecteur, mon père, dans le cimetière anglais à Rome, » répondit-elle. « Ma mère est morte il y a quelques années au Canada. » L'infirmière quitta brusquement son coffre et se leva. Ces derniers mots sortis de la bouche de Mademoiselle Rosemérée l'avaient comme galvanisée. « Vous connaissez le Canada ?» demanda Grace. « Oui. » Ce fut toute sa réponse, faite à contre-cœur, si brève qu'elle eût été. « Êtes-vous jamais allé à Port Logan ?»« J'ai vécu à quelques lieues de Port Logan. »« Quand cela, donc ?»« Il y a quelque temps. » Là-dessus, Mercy Merrick retourna à son coffre et changea le sujet de la conversation. « Vos parents qui sont en Angleterre doivent avoir conçu de grandes inquiétudes à votre égard, » dit-elle. Grace fit un geste. « Je n'ai point de parents en Angleterre. On pourrait bien difficilement trouver une personne au monde plus dénuée d'amis que moi. Nous revenions du Canada quand la santé de mon père s'affaiblit et le docteur recommanda le climat de l'Italie. Sa mort m'a laissé non seulement sans amis, mais presque sans ressources. » Elle s'arrêta, chercha la poche du vêtement gris dans lequel l'infirmière l'avait enveloppée et y prit un portefeuille. « Toutes mes espérances, reprit-elle, sont contenues dans ce petit portefeuille. C'est le seul et unique trésor que je sois parvenue à sauver quand on m'a volé tous mes bagages. » Merci pouvait tout au plus apercevoir le portefeuille que Grace lui montrait dans l'obscurité croissante de la chambre. « Avez-vous là beaucoup d'argent ? » demanda-t-elle. « Je vous ai dit que non, mais seulement quelques papiers de famille et une lettre de mon père me recommandant à une vieille dame qui habite l'Angleterre et qui est sa parente par alliance. Je ne l'ai jamais vue. Cette dame a bien voulu consentir à me recevoir comme lectrice et demoiselle de compagnie. Si je ne retourne pas bientôt en Angleterre, quelque autre personne prendra ma place ?» « Et vous n'avez pas d'autre moyen de vivre ?»« Aucun. Mon éducation a été bien négligée. Nous menions une vie presque sauvage dans le fin fond de l'Amérique du Nord et je suis à peine en état de remplir les devoirs d'une gouvernante. Je dépends donc absolument de cette étrangère qui veut bien me recevoir par considération pour mon père. » Elle remit le portefeuille dans la poche de son vêtement et termina son petit récit aussi naturellement qu'elle l'avait commencé. Mon histoire est une triste histoire, n'est-ce pas ? Dit-elle. La voix de l'infirmière reprit tout à coup une singulière aigreur. « Il y a de plus tristes histoires que la vôtre, » fit-elle. « Il y a des milliers de pauvres femmes qui ne demanderaient comme suprême bonheur que de pouvoir prendre votre place en ce monde. » Grace tressaillit. « Peut-on envier un sort tel que le mien ? » s'écria-t-elle. « Certes, on peut envier votre existence sans tâche et la chance que vous avez d'être accueillie honorablement dans une maison respectable. » Grace se retourna vivement, cherchant à distinguer l'expression de la physionomie de sa compagne. « Comme vous dites cela d'une singulière façon, » murmura-t-elle. Cette fois, elle ne reçut pas même de réponse. Le lugubre personnage assis sur le coffre était immobile. Grace se leva et fit approcher sa chaise du siège que l'infirmière avait choisi. « Il doit y avoir quelque chose de romanesque dans votre existence, » dit-elle. « Comment en êtes-vous venue à la situation où je vous vois ici ? Vous remplissez de terribles devoirs et vous m'intéressez plus que je ne puis le dire. Donnez-moi votre main. » Merci refusa la main qu'on lui tendait et recula sur le coffre. « Ne sommes-nous donc pas amis ?» demanda Grace avec étonnement. « Nous ne pouvons pas être amis. Pourquoi ?» L'infirmière gardait un opiniâtre silence. Grace se rappela l'hésitation de cette jeune femme à dire son nom. « Vais-je deviner juste ?» demanda-t-elle. « Je crois bien que vous devez être quelque grande dame déguisée. » Merci se prit à se sourire à elle-même, doucement et amèrement. « Moi, une grande dame ? » fit-elle. « Pour l'amour de Dieu, taisez-vous !» Mais la curiosité de Grace était trop vivement surexcitée. Elle insista. « Encore une fois, » reprit-elle avec douceur, « soyons amis !» Et, tout en parlant, elle posa sa main sur l'épaule de Merci, qui la repoussa rudement. Ce geste brutal aurait mis hors d'elle-même la femme la plus patiente du monde. Grace, indignée, recula à son tour. « Ah ! S'écria-t-elle, vous êtes méchante !»« Je suis bonne, » répondit l'infirmière avec une tristesse navrante. « C'est par bonté que vous me repoussez, et quand je vous ai dit mon histoire... »« Ne me demandez pas la mienne, ne me faites pas parler !» s'écria-t-elle, « vous le regretteriez cruellement !» Grace ne se tint point pour battue. « J'ai eu confiance en vous, moi, » continua-t-elle. « Vous me refusez la vôtre, je reste votre obligée et vous ne voulez point m'aimer. Ce n'est point généreux. »« Eh bien, » dit Merci Méric, « asseyez-vous. » Le cœur de Grace battait bien fort dans l'attente de la révélation qui allait lui être faite. Elle rapprocha encore sa chaise du coffre, mais d'une main assurée, Merci repoussa cette chaise. « Non, pas si près de moi, » dit-elle avec âpreté. « Vous ne savez pas ce que vous faites. »« Grand Dieu !»« Pas si près, attendez. Vous ne vous doutez guère de ce que je vais vous dire. » Grace obéit cette fois sans souffler mot. Il y eut une minute de silence. Une faible lueur échappa à la chandelle mourante et montra Merci, presque accroupie sur le coffre, appuyant ses coudes sur ses genoux et cachant sa figure dans ses mains. Une seconde après, la chambre était plongée dans une complète obscurité. Au moment juste où l'ombre enveloppa les deux femmes, l'infirmière commença de parler. «